Avec ce qu'on lit, avec ce qu'on consulte, avec ce qu'on regarde, évidemment, on vous relate souvent qu'on a des déceptions médiatiques, mais parfois, il y a des petites perles, il y a des découvertes. Et c'est quand même étonnant ce que je vais vous raconter, mais ma découverte de... peut-être pas de l'année, parce que l'année est quand même jeune, mais ma découverte de la semaine, je vais le dire comme ça, c'est à RDI Économie que je l'ai découverte. C'est un économiste français qui est, qu'on pourrait qualifier de libéral réformiste. Bon, pour les gens qui connaissent Vincent Gelozo, je pense qu'on en, on est dans la même gamme idéologique, si vous voulez, là. Favorable à l'innovation, aux entreprises, à la mondialisation, partisan des réformes de l'État et du marché du travail en France. Il a écrit des ouvrages intéressants, dont La civilisation de la peur, que j'ai pas lu, mais que je m'apprête à acheter aussitôt que l'émission se termine. On va acheter ça sur Kindle. Est-ce que je vais participer à la mondialisation, là? Si j'achète ça sur Kindle, mon cher Nicolas Bouzou, comment ça va ce matin?
Ben, ça va très bien. Je suis vraiment très honoré par votre présentation et je suis honoré d'être avec vous.
Est-ce que vous êtes honoré d'être à Montréal ou honoré d'être ailleurs qu'à Montréal? Êtes-vous à Montréal encore?
Non, j'adore venir à Montréal. Je viens très souvent, hein. Je viens à peu près tous les deux mois à Montréal. Et évidemment, j'adore l'ambiance de la ville. Et j'étais à Québec hier, qui est aussi une ville absolument merveilleuse. Et puis, je vais vous dire, je trouve aussi que les liens entre l'Europe et le Canada et entre la France et le Canada se sont considérablement renforcés ces dernières années, et en particulier depuis un an, hein, depuis que le président Trump est à la Maison-Blanche, le Canada et l'Europe réalisent que nous avons énormément de choses à faire ensemble. Et donc, je suis encore plus heureux de venir régulièrement.
Vous venez régulièrement, je crois, selon ce que mon collègue m'a relaté, à l'Institut économique de Montréal, hein, c'est ça?
Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, je viens aussi Allez-y. Parce que ma fille étudie à l'Université de Concordia à Montréal, et donc je viens
Votre
la voir.
Votre fille, déjà, vous avez l'air si jeune!
Ah ben, vous êtes très gentil, mais je pense que je suis moins jeune que j'en ai l'air. Okay. Donc, j'ai une fille qui a 19 ans et qui est très heureuse d'étudier à Concordia, et c'est formidable que le Canada accueille tous ses étudiants étrangers.
Et vous faites des collaborations dans des think tanks économiques?
Oui, absolument, comme l'Institut économique de Montréal, qui est un think tank libéral que j'aime beaucoup et avec lequel on réfléchit aux questions d'innovation notamment.
D'abord, comment vous pourriez vous qualifier? Avant d'y aller avec l'entrevue, les gens vous connaissent pas, je vous connaissais pas avant hier. Est-ce que vous pourriez dire, nous on dit au Québec de droite économique. En France, on dit libéral ou libéral classique. Ici, oui. Le mot libéral est presque à proscrire. En fait, si vous rencontrez des gens, si vous voulez vous faire des amis, ne dites jamais que vous êtes un libéral, parce qu'à ce moment-là, vous n'aurez aucun ami. Vous aurez compris que le terme libéral n'est pas très bien, très en vue. Mais allez-y, comment vous pourriez vous qualifier?
Ben vous avez raison de me le dire, parce que j'aurais pu faire l'erreur. Écoutez, je défends la liberté économique, la liberté d'entreprendre, la démocratie, l'innovation, le progrès. Et surtout, j'essaie de convaincre mes concitoyens que l'avenir peut être mieux que le présent et même beaucoup mieux que le passé. J'en suis absolument convaincu, notamment dans nos pays, hein, notamment en Amérique, en Europe. Je suis absolument persuadé que tout le savoir scientifique dont on dispose, toutes ces entreprises qui innovent, et puis quand même une qualité de vie qui, au Canada ou en Europe, sont absolument fantastiques. Voilà, je pense que tout ça, en fait, c'est vraiment une promesse d'amélioration pour l'avenir. Alors, je ne sais pas comment ça se passe au Canada. Quand je dis ça en Europe, évidemment, tout le monde me tombe dessus en disant « Mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est complètement évident que... »
Mais vous êtes un oiseau rare en France, là. La droite économique en France, elle n'existe pas.
Je sais pas. On a un président de la République en France qui est plutôt quand même, comment dire, alors vous m'avez dit de proscrire le mot libéral, mais enfin qui est en faveur des libertés économiques et des libertés démocratiques. Après, il est très impopulaire parce que ça fait longtemps qu'il est au pouvoir, mais je pense que ces idées, en fait, en France, sont sans doute un peu plus présentes qu'on ne le dit. Après, vous avez raison, hein, la France aujourd'hui est un pays extrêmement pessimiste, mais qui l'a toujours été. Quand vous regardez les sondages d'opinion, la France est toujours le pays le plus pessimiste au monde, plus pessimiste que l'Afghanistan ou l'Irak. Hein. Donc, on va dire que c'est peut-être aussi quelque part ce qui fait notre charme.
Donc, un pays de gueulards, mais un pays... ça se fait le charme des Français, au final, peut-être.
peut-être. Écoutez, en tout cas,
allez-y. Allez-y,
non, mais pour fréquenter la suite. pour fréquenter la France et le Canada, je pense que les Français râlent beaucoup plus que les Canadiens et beaucoup plus aussi que les Québécois. Voilà.
L'impact du conflit en Iran sur l'économie mondiale, qu'est-ce que vous en dites? Vous avez relaté à Zone Économie que, et c'est un point de vue qui me plaît parce que vous êtes tempéré. Évidemment, ça crée beaucoup d'anxiété. Lorsqu'on voit les images à répétition, c'est sûr que ça crée une effervescence qui est négative lorsqu'on voit les images dans les all news de ce monde. Mais vous, ce que vous dites, c'est que l'impact du conflit sera limité car elle dépend, l'économie mondiale et surtout même l'économie canadienne, on dépend assez peu du pétrole iranien. Est-ce que vous pouvez élaborer là-dessus?
Oui, bien sûr. En fait, la production de pétrole en Iran, elle a beaucoup baissé hein, ces dernières années. Et aujourd'hui, elle représente à peu près 4 à 5 % de la production mondiale de pétrole. Et c'est un pétrole qui est, pour l'essentiel, exporté vers la Chine. Donc, ce qui se passe, c'est avant tout un problème pour la Chine, qui était un allié de l'Iran, comme vous savez. Mais aujourd'hui, le principal producteur de pétrole au monde, ce sont les États-Unis, en réalité. Alors, le Canada est un pays qui aussi produit du pétrole, ça n'est pas le cas des pays européens, mais c'est vrai que nos approvisionnements en pétrole dépendent assez peu de l'Iran. Ce qui est plus problématique, en réalité, c'est le fait que vous avez l'Iran qui contrôle un détroit qui s'appelle le détroit d'Ormuz, par lequel transite une grande partie du gaz au niveau mondial, mais en particulier du gaz qui vient du Qatar. Et ça, à la limite, c'est presque plus problématique parce que aujourd'hui, les bateaux n'arrivent pas à passer dans ce détroit et donc n'arrivent pas à exporter le gaz qui vient du Qatar.
D'où l'explosion du prix du gaz en Europe ou en France, c'est ça?
Oui, voilà. Exactement, d'autant plus que la grande entreprise productrice de gaz au Qatar a vu ses installations abîmées par des drones iraniens. Bon, mais il faut prendre un petit peu de recul. Évidemment, la situation est anxiogène aujourd'hui, mais les choses vont se rétablir. Si vous prenez l'Europe est un peu déstabilisée par l'augmentation des prix du gaz aujourd'hui en raison de cette situation au Qatar, mais notre principal fournisseur de gaz en Europe, de mémoire, ça doit être la Norvège, ensuite on a les États-Unis et ensuite on doit avoir l'Algérie, vous voyez. Donc je pense qu'il faut prendre un peu de recul et se dire que l'économie mondiale ces dernières années, elle en a vu d'autres, hein. Elle a vu le Covid, elle a vu la guerre en Ukraine, elle a vu le protectionnisme américain. Et finalement, on a toujours une croissance mondiale qui est relativement robuste. Donc, je vois bien le problème, mais voilà, je ne pense pas qu'il faille nécessairement en déduire que l'économie mondiale soit au bord de l'effondrement.
Qu'est-ce qui est à la source de cette résilience?
C'est vraiment une excellente question, je me la pose beaucoup. Je pense que les très grandes entreprises aujourd'hui dans le monde, les entreprises qu'elles soient américaines ou européennes, sont incroyablement efficaces. Je vais vous donner un exemple très concret. Alors pardonnez-moi de parler de la France, hein, c'est toujours pénible quand un Français parle de la France dans un pays étranger. Mais
je vous donne le droit.
Vous êtes adorable. Il y a une grande entreprise en France qui s'appelle CMA-CGM, qui est une entreprise, en fait, qui est de porte-containers, qui fait circuler, tout simplement, les marchandises sur les mers et les océans du monde entier. Et en fait, cette entreprise, elle a été évidemment très touchée par les mesures protectionnistes de Trump, elle a été très touchée par la guerre en Ukraine, et à chaque fois, elle arrive à déplacer sa flotte de façon extrêmement efficace et à trouver, à contourner les détroits, les endroits qui sont fermés, qui sont dangereux pour en prendre d'autres. Et cette entreprise aujourd'hui se porte incroyablement bien. Ce que je veux dire par là, hein, c'est que la capacité de résilience des grandes entreprises dans le monde entier, c'est quelque chose que j'observe depuis plusieurs années, est devenue tout à fait exceptionnelle. Et regardez d'ailleurs, un sujet qui vous intéresse beaucoup au Canada, moi aussi, mais qui est l'impact des taxes protectionnistes de Trump. En fait, on pensait que le monde entier allait entrer dans une guerre commerciale, que ça allait déclencher une récession mondiale, et finalement, non, parce que nos gouvernements en Canada, en Europe, ont été, en Chine aussi d'ailleurs, ont été assez adroits et ont évité une guerre commerciale, et nos entreprises, finalement, ont réussi correctement à s'adapter à cette agression protectionniste. Donc, vous voyez, il y a une vraie résistance de nos entreprises.
Comment vous percevez Donald Trump dans votre lorgnette d'économiste de droite, c'est-à-dire libéral, donc oui, prônant les libertés fondamentales, liberté de commerce, le flux libre des choses, et j'imagine être en faveur de libre-échange, donc je présume oui, que vous êtes libre-échangiste. Comment oui, vous le percevez, comment vous le comprenez?
Bah, je le perçois très mal. La politique américaine, je la perçois de façon extrêmement négative. Je pense que, de ce point de vue-là, la politique protectionniste du président Trump est une erreur majeure, mais avant tout pour les États-Unis. Et d'ailleurs, cette politique, elle a été menée pour que les États-Unis réduisent leurs déficits commerciaux, c'est-à-dire pour que les États-Unis réduisent leurs importations et augmentent leurs exportations. Qu'est-ce qu'on observe un an après le fameux Liberation Day? On observe que le déficit extérieur américain n'a jamais été aussi élevé qu'aujourd'hui. Il est au plus haut depuis une soixantaine d'années. Et on voit aussi que ces taxes protectionnistes, il y a beaucoup d'études qui le montrent, plusieurs études, elles sont payées à 90% par les entreprises et par les consommateurs ben oui, américains. Ben oui. Donc cette politique de Trump est une folie du point de vue des États-Unis. Alors évidemment, c'est aussi une mauvaise affaire pour le Canada, c'est une mauvaise affaire pour l'Europe, mais la première victime, c'est les États-Unis. Et d'ailleurs, il est tout à fait possible que les électeurs américains s'en rendent compte. On va voir ça lors des mid-termes.
Oui, mais ils vont s'en rendre compte, mais ils vont élire des démocrates qui sont souvent tout aussi protectionnistes, M. Bouzou.
Vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. Et je trouve que ce qui est dramatique aux États-Unis, c'est le fait que le débat politique et économique soit tombé aussi bas. Et vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, Barack Obama lui-même avait déjà mené des politiques protectionnistes. Hein, il avait commencé et ça avait été continué par Joe Biden. Mais là, ça a atteint quand même une ampleur absolument exceptionnelle avec le président Trump. Mais c'est la raison pour laquelle je pense qu'il est très important que des pays comme le Canada ou les pays européens calme le jeu et réaffirme leur engagement dans la liberté du commerce, mais aussi dans la science, hein, puisque la science est attaquée aux États-Unis. Donc voilà, croyance dans la science, dans l'innovation, dans le progrès, ça me semble très important que nos pays réaffirment ces valeurs. Et puis avec d'autres, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le déplacement du Premier ministre canadien en Inde, par exemple. Voilà, ça, je trouve que ce sont des choses très, très intéressantes et très positives.
Comment le Canada doit se positionner? Au plan économique pur, vous êtes un économiste, je le rappelle. Au plan oui, économique, prenons l'exemple du Québec. Le Québec est assis sur des ressources incroyables de gaz naturel. On a passé des oui, législations au Québec pour nous empêcher littéralement de les exploiter. Moi, je trouve que c'est de la pure folie, d'autant plus qu'on peut les exploiter de manière tout à fait environnementalement responsable.
Voilà.
Pas en cow-boy, comme on dit, mais pour vrai, oui, en respectant toutes les lois. Comment le Québec et le Canada devraient se positionner quant au développement des richesses et quant au commerce international, à la lumière de ce qu'on voit en Europe, à la lumière de ce qu'on comprend de la Russie et de l'acheminement de son gaz et tout, l'alimentation, donc les besoins énergétiques de l'Europe, à la lumière de ce qui se passe avec Trump, comment le Canada doit se comporter?
Alors, en ce qui concerne le gaz québécois et le pétrole canadien, moi, je fais partie de ceux, je l'avais écrit dans un journal français qui s'appelle Les Échos, qui pense que il faut développer les exportations canadiennes vers l'Europe. Parce que même si l'Europe essaie de diminuer ses importations d'énergie fossile, donc de gaz et de pétrole, on en a quand même besoin. Parce que c'est une transition qui prend beaucoup de temps. Et pour être tout à fait honnête, aujourd'hui, la France, par exemple, elle importe du gaz avec des pays avec lesquels elle a de grandes difficultés du point de vue politique et géopolitique. C'est le cas de la Russie, bien évidemment, mais c'est le cas aussi dans une moindre mesure de l'Algérie et des États-Unis. Et donc, je pense que ce partenariat énergétique qui passe par la construction d'infrastructures, par la construction de gazoducs notamment, entre le Canada et l'Europe, c'est quelque chose qui est très important pour les deux parties. C'est important, le domaine du gaz par exemple pour le Québec, mais nous, très clairement, en Europe et en France, on a besoin de ce gaz. D'autant plus que les émissions carbone du gaz sont beaucoup plus faibles que celles du pétrole et beaucoup plus faibles que celles du charbon. Et rendez-vous compte qu'on est en train de se demander aujourd'hui en Europe si on ne va pas être obligé de refaire fonctionner un petit peu des centrales à charbon pour compenser le gaz qu'on ne peut plus importer du Qatar. Donc vous voyez que c'est complètement absurde, donc je suis entièrement d'accord avec vous.
Merci beaucoup. J'ai l'impression qu'on va se reparler au cours des prochaines semaines. Ça va nous faire plaisir de vous réinviter.
Ça me fera
merci beaucoup.
Plaisir.
Puis vous allez vous sentir moins seul en France. Je pense que vous n'êtes pas beaucoup à tenir ce genre de discours-là. Et Les Échos, ouais, je suis impressionné, c'est quand même un excellent quotidien économique. Les Échos, qui est un peu genre le Wall Street Journal français, là, je pourrais comparer. Les Échos, c'est exceptionnel. On n'a pas ce genre de truc-là, malheureusement, au Canada. Peut-être qu'il y a eu le Financial Post à un moment donné, là, mais ben, merci beaucoup, M. Bourgeois. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir.
À très bientôt et vive le Québec. À bientôt.
Merci, bye-bye. Nicolas Bouzou, économiste, super intéressant, français. Dan, c'est pas un emmerdeur.
Non, c'est ça allait.
Super
ça.
Intéressant. Il vient nous dire, développez-vous. Et à ce moment-là, vous allez vous enrichir et nous, bon, on va prendre nos distances de régimes paria ou des régimes qui sont conflictuels. Comme la Russie. J'ai entendu dire que ça va pas très bien entre Poutine et Macron. Donc, mais c'est ça, il y a des opportunités. Mais on vote au Québec des lois pour s'empêcher de se développer. C'est complètement malade.